Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. Écoutez ceci. Bien sûr, cela évoque l'ouverture de la célèbre émission de radio émise depuis Londres par la France libre, Les Français parlent aux Français, pendant 4 ans, de 1940 à 1944. Ces 4 notes, 3 brèves, 1 longue, incarneront l'espoir de la France occupée, d'autant plus qu'elles correspondent en morse au V de la victoire. Mais ces 4 notes sont aussi et surtout celles de la 5e symphonie de Beethoven dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la naissance. C'est de lui que je souhaite vous parler aujourd'hui. Il est un compositeur révolutionnaire dans le double sens du terme. Il a adhéré aux idéaux de la Révolution française et a inventé une musique tout aussi révolutionnaire. Nous sommes en 1805 dans un théâtre de Vienne. Beethoven se tient debout face à l'orchestre. Il s'apprête à diriger, pour la première fois, sa 3e symphonie qu'il avait dédiée à Bonaparte, alors premier consul. Il s'agit pour lui d'un événement très particulier, car il faut savoir que la Révolution française a accompagné sa jeunesse et qu'il a longtemps voué au général Corse une admiration sans limite. Pour lui, Bonaparte est l'homme qui a sauvé la France de la tourmente révolutionnaire sans jamais renoncer aux idéaux démocratiques qu'elle incarnait. Il est possible, mais non avéré, que l'idée d'écrire une symphonie en l'honneur de Bonaparte ait été suggérée à Beethoven par le maréchal Bernadotte, alors ambassadeur de France à Vienne et avec lequel il était très lié. Mais le compositeur apprend alors par ses amis que Bonaparte a décidé de se faire sacrer empereur des Français. C'est insupportable, il s'écrie. Ce n'est donc qu'un homme ordinaire, il va fouler aux pieds tous les droits des hommes et son ambition fera de lui le plus grand des tyrans. Dans sa rage, Beethoven fait un trou dans son manuscrit en rayant sa dédicace à Bonaparte. Sa 3e symphonie, qui devait porter le nom du premier consul, va désormais s'appeler la symphonie héroïque. En exergue, il y inscrit « En souvenir d'un grand homme ». À partir de ce moment, Napoléon va devenir la bête noire du musicien. Et c'est donc chargé de cette passion déçue pour le nouvel empereur des Français que Beethoven entame la symphonie. Par sa force évocatrice, elle déroute une partie du public viennois. Les uns s'enthousiasment, les autres sont rebutés par la longueur et la nouveauté de cette œuvre. L'innovation romantique dérange, mais sa puissance, avec une utilisation massive des bois et des cuivres, la fulgurance de son introduction et de son final, laisse les auditeurs saisis. On est bien loin de Mozart, on a changé d'époque. Avec cette 3e symphonie, les espoirs révolutionnaires qu'avait placé Beethoven en Napoléon sont morts. Mais une révolution musicale est née. Qui est donc ce compositeur qui ose bousculer ainsi les oreilles si musicales des Viennois ? Il naît en 1770 à Bonn, capitale du prince-électeur de Cologne, dans une famille de musiciens. Son grand-père paternel, originaire des Flandres, est maître de chapelle du prince-archevêque de Bonn. Ludwig est l'aîné des 3 garçons de la famille. Dès l'âge de 5 ans, il montre des dispositions pour la musique. Son père décide de prendre en main sa formation musicale, rêvant d'en faire un petit prodige à l'image de Mozart. Mais Ludwig est assez réticent pour travailler avec son père, brutal, souvent ivre et peu pédagogue. Finalement, c'est le prince-archevêque de Bonn qui, ayant appris l'existence de ce jeune talent, va le confier à ses meilleurs musiciens. Il apprend le clavecin et le violon, et à l'église, il découvre l'orgue qui le fascine. À l'âge de 9 ans, il commence à travailler avec un professeur de renom, Christian Neef, directeur de la troupe d'opéra. Celui-ci lui enseigne le piano, l'histoire musicale, mais lui inculque aussi une culture générale solide par l'étude des grands philosophes de l'Antiquité. Ses rapports avec son élève sont bienveillants et protecteurs. À 12 ans, Beethoven devient claveciniste dans l'orchestre princier et commence à composer des sonates pour piano. À 17 ans, il se rend à Vienne pour étudier avec Mozart, au sommet de sa gloire et qui a 14 ans de plus que lui. Le jeune Ludwig va jouer du piano devant lui. Mozart ordonne à ses invités de se taire pour écouter le prodige venu de Bonn en leur disant « Celui-là fera parler de lui ». Mais Beethoven ne prendra aucune leçon avec Mozart car la mort brutale de sa mère le contraint à regagner Bonn de toute urgence. La situation est très difficile pour Beethoven car son père, rongé par l'alcool, est défaillant. Le jeune homme doit désormais s'occuper de ses deux frères, mais c'est pourtant à cette période qu'il va faire deux rencontres décisives. La première, c'est celle du comte Ferdinand von Waldstein, chevalier teutonique, passionné de musique, ami de Mozart. Installé à Bonn, il est séduit par le potentiel du jeune Beethoven et sera son premier mécène. La seconde est celle de Joseph Haydn, qui passe alors par Bonn. À presque 60 ans, ce compositeur de talent a été le mentor de Mozart. Il accepte de prendre Beethoven comme élève. Ludwig va donc retourner à Vienne, la capitale de toutes les musiques. Les premières leçons de Haydn le déçoivent. Il trouve son maître trop âgé, manquant de rigueur. Il prend, en secret, d'autres leçons auprès d'un organiste et de Salieri, le rival de Mozart, qui l'initie à la musique vocale et à la langue italienne. Haydn l'apprend, se vexe et peut-être par vengeance, on n'en est pas sûr, trouve décevantes toutes les nouvelles compositions de Beethoven. Aigreur d'un homme vieillissant, blessure d'ego, Beethoven s'en moque. Son mécène, Waldstein, lui donne des lettres de recommandation pour tous ses parents et amis viennois. Une nouvelle vie commence pour Beethoven, il va pouvoir briller dans la ville impériale. Beethoven arrive à Vienne imprégné des idées révolutionnaires françaises que lui avait enseignées son professeur de littérature à l'université de Bonn. Il va fréquenter les sympathisants des Jacobins, dont le club est le plus célèbre de la Révolution, et adopter la nouvelle mode vestimentaire française. Et c'est au fil de ces rencontres intellectuelles que va naître chez Beethoven son admiration pour Bonaparte. Il ne voit aucune contradiction entre ses fréquentations jacobines et le fait d'utiliser les lettres d'introduction de Waldstein qui vont lui ouvrir tous les salons de Vienne. On se l'arrache, il donne des récitals, croule sous les demandes de leçons de piano, il compose sans cesse. C'est là que naissent d'autres passions amoureuses cette fois, mais qui se solderont, elles aussi, par de tristes déceptions. En instruisant la jeune Thérèse Brunswick, il rencontre la cousine de cette dernière, Giulietta Ducardi. Il est éperdument épris d'elle, mais hélas, elle ne peut l'épouser. Elle est promise à un aristocrate, le comte Gallenberg. Il en éprouvera un profond chagrin, et de cet amour, il reste la sonate au clair de lune qui a été écrite pour elle. Ces innombrables passions tourmentent Beethoven, mais nourrissent aussi son génie créateur. On peut citer, entre autres, la cantatrice berlinoise Amalie Sebald, Antonia et Bettina Brentano, deux sœurs, et bien d'autres encore. Comme tous les amoureux, Beethoven écrit des lettres à l'immortelle bien-aimée. On ne sait pas très bien à qui elles sont destinées, Giulietta ou Amalie, qu'importe. Pour toutes celles qui enflamment son cœur, il exprime une passion romantique comme son œuvre.
Notre amour ne peut-il exister autrement que par des sacrifices, par l'obligation de ne pas tout demander? Peux-tu faire autrement que tu ne sois pas tout à moi et moi à toi? Ah, Dieu, contemple la belle nature et accepte d'un cœur paisible ce qui doit être. L'amour exige tout, et de plein droit. Ainsi en est-il de moi avec toi, et de toi avec moi.
Malgré ses peines de cœur, tout semble aller très bien pour le jeune compositeur. Mais une atroce fatalité va s'abattre sur lui. En réalité, depuis plusieurs années, il souffre de troubles auditifs. Les premiers symptômes sont apparus en 1794. En 1801, il n'entend plus les sons aigus des instruments et des voix. Il prétend que cela n'est pas un problème et ne l'empêche ni de composer, ni de jouer d'un instrument. Néanmoins, cette surdité l'isole. Il évite les conversations et il est peu aimable dans ses rapports avec les autres. Pour fuir Vienne, où la vie sociale le gêne, il décide de s'installer à Heiligenstadt, un ravissant village au nord de la capitale, sur les contreforts du Kahlenberg. Il y séjourne pour la première fois en 1802 dans un état de profonde dépression. Il écrit alors à ses deux frères, Karl et Johann, une lettre connue comme « le testament de Heiligenstadt », car elle est destinée à être lue et son contenu exécuté après sa mort. Il leur fait part de ses tourments, du drame de sa surdité, de sa volonté de se suicider, car la vie lui est devenue insupportable.
Ah, comment avouer la faiblesse du seul sens qui devrait être chez moi plus parfait que chez les autres ? Sens qu'autrefois j'ai possédé dans sa plus grande perfection, dans une perfection que peu de gens de ma profession connaissent ou ont jamais connue. Mon malheur est doublement pénible pour moi, parce qu'il me réduit à être mal compris. Pour moi, il ne peut y avoir de détente en société, ni de conversation raffinée, presque seule, comme un banni. Et je ne peux me mêler à la société que lorsque cela devient indispensable.
Dès lors, s'étant épanché auprès des deux êtres qu'il aime le plus au monde, Beethoven décide de ne pas mettre fin à ses jours. Malgré le martyre de sa surdité, il va braver le destin et continuer à travailler avec acharnement. Dans cette période sinistre, sa musique va devenir lugubre. Sa sonate en la bémol, qu'il dit avoir composée pour la mort d'un héros, est une véritable marche funèbre, comme la cristallisation de son propre drame. Il va surmonter cette dépression grâce aux sollicitations des éditeurs de musique qui achètent à n'importe quel prix la primeur de ses créations. Des mécènes, comme le prince Lichnowsky, lui versent des pensions. Désormais, il ne va plus vivre que pour ses œuvres. Un statut que lui enviera des années plus tard Richard Wagner, un autre immense musicien. On comprend que le statut de Beethoven ait fait rêver à un Wagner poursuivi par ses créanciers. Wagner, en génial musicien, explique que si la musique de Beethoven est si belle, c'est justement parce qu'il est sourd.
Maintenant, c'est uniquement l'essence des choses qui se manifeste à lui et qu'il est part du rayonnement serein de la beauté. Maintenant, il comprend la forêt, le ruisseau, la prairie, le ciel d'azur, la foule joyeuse, le couple d'amoureux, le chant des oiseaux, la course des nuages, le déchaînement de la tempête, l'apaisante volupté du calme qui renaît. Alors, tout ce que voit l'artiste, tout ce qu'il crée, est imprégné de cette merveilleuse sérénité qui devient, grâce à lui, l'élément propre de la musique.
Heiligenstadt, qui devait être son tombeau, devient ainsi le lieu de sa résurrection. C'est là qu'il va composer, en 1808, sa sixième symphonie, dite la Pastorale. Elle est la transcription musicale de ses promenades dans la campagne où les merveilles de la nature ne cessent de l'éblouir. Comme une mise en musique de la beauté de l'univers et une présence divine. C'est alors que se situe dans la vie du compositeur l'épisode Fidelio qui va réactiver son animosité envers Napoléon. Schikaneder, le directeur du théâtre An der Wien dans les faubourgs de Vienne, qui en 1791 avait créé le dernier opéra de Mozart, rêve que Beethoven écrive un opéra qui sera joué dans cette salle. Il pense, grâce au prestige de Beethoven, attirer un public nombreux et élégant habitué des salles officielles. Beethoven signe avec lui un contrat car il est persuadé qu'il doit écrire un opéra pour être un musicien complet. Le sujet est tiré de Léonore ou l'amour conjugal. Le musicien consacre les années 1804 et 1805 à l'écriture de ce drame qui prendra le titre définitif de Fidelio. L'œuvre est créée le 20 novembre 1805 au théâtre An der Wien. C'est la pire des dates possibles, car depuis 10 jours, les troupes françaises sont entrées dans la capitale autrichienne et occupent la ville. L'aristocratie et la grande bourgeoisie qui auraient dû constituer son public ont quitté Vienne depuis longtemps. Le rare public ne sera constitué que d'officiers français qui n'étaient pas du tout préparés à comprendre la nouveauté musicale de l'ouvrage, célébrant la force de l'amour conjugal et la passion de la liberté. Les premières représentations sont un désastre et Beethoven rend Napoléon responsable de cet échec. Une humiliation pour Beethoven qui pourtant n'enterre pas son opéra. Au printemps 1809, il se réjouit des préparatifs de guerre qui a pour but de libérer les États allemands de la domination française. Il écrit son 5e concerto pour piano en mentionnant dans la marge « Chant de triomphe pour le combat, attaque, victoire ». Napoléon assiège Vienne, puis l'occupe. Beethoven est anéanti. La garnison française quittera Vienne en octobre 1809, laissant l'Autriche en proie à une grave crise économique. L'un des principaux protecteurs de Beethoven, le prince de Lobkowitz, fait faillite. Un autre meurt accidentellement et Beethoven considère que Napoléon est la cause de tous ses malheurs. C'est pourquoi l'issue de la bataille de Leipzig le réjouit. L'empereur des Français est battu. Puis vient la victoire remportée par Wellington contre les armées napoléoniennes en Espagne à Vitoria le 21 juin 1813. Et l'enthousiasme des Autrichiens et bien sûr Beethoven. Celui-ci va écrire, très vite, sa 7e symphonie, la symphonie de bataille pour la victoire de Wellington à Vitoria. Sa création, au profit des blessés autrichiens le 8 décembre 1813, est un triomphe. Il faut la rejouer plusieurs fois, tant le public est enthousiaste. Beethoven dirige lui-même l'orchestre. Meyerbeer est à la grosse caisse, Salieri fait donner les canons, tandis que de chaque côté de la salle défilent des troupes représentant l'ennemi. 2 ans plus tard, Beethoven reconnaîtra lui-même que cette symphonie, écrite trop vite, est une stupidité. En fait, le triomphe de cette 7e symphonie érige Beethoven en incarnation de l'unité nationale et de son aspiration à la liberté politique. Il est devenu patriote. En 1815, lors du congrès de Vienne, il est au sommet de sa popularité. Le retour de l'île d'Elbe est un choc pour lui, mais après Waterloo, Beethoven composera un chœur intitulé « Tout est consommé ». L'empereur déchu part pour Sainte-Hélène et Beethoven peut se consacrer à son œuvre. Mais la surdité du compositeur s'est aggravée. Depuis 1815, elle est totale. Aucun cornet auditif ne peut plus lui venir en aide et à partir de 1818, Beethoven ne pourra communiquer que par l'intermédiaire de carnets, ces fameux carnets de conversation dont on a retrouvé 130 exemplaires sur les 400 qu'il a utilisés. Et pourtant, c'est après l'acceptation de sa surdité complète que Beethoven va créer son plus grand chef-d'œuvre. Il se consacre désormais à l'écriture de sa 9e symphonie que la Société Philharmonique de Londres attend depuis longtemps. En novembre 1822, Fidelio obtient un nouveau triomphe à Vienne et va rester plusieurs semaines à l'affiche. Beethoven travaille à sa 9e symphonie. Il a du mal à trancher sur la façon dont il doit terminer cette composition. Il pense à un final instrumental avant d'opter pour une solution complètement différente. Il choisit l'option lyrique en introduisant des chœurs et des solistes. Il va mettre en musique l'ode à la joie de Schiller. Cela fait longtemps qu'il songeait à ce projet et tout d'un coup, il ne voit pas d'autre finale possible pour sa 9e symphonie. Son œuvre achevée, le temps est venu de la présenter au public. Mais voilà, Vienne ne peut supporter l'idée que Londres ait la primauté de cette nouvelle œuvre de Beethoven. Alors, elle est interprétée pour la première fois, le 7 mai 1823, dans un petit théâtre viennois. Le public écoute religieusement et après les dernières notes, 5 salves d'applaudissements retentissent. Le public délire de joie, mais Beethoven n'est pas heureux. La part de recette qui lui revient est dérisoire. Il sait qu'il a donné au public un chef-d'œuvre. L'exultation et la jubilation de la salle le lui prouvent, mais il ne se sent pas pour autant récompensé. Qui, mieux qu'un chef d'orchestre, peut nous raconter les bouleversements que provoque la 9e symphonie ? Écoutons le chef Joseph Kritz en 1963.
Quand je dirige le 2e mouvement, je ne peux pas échapper à la sensation que la mort elle-même me regarde par-dessus mes épaules. Dans le 3e mouvement, Beethoven touche à sa fin. La mort frappe à sa porte par les trompettes. Beethoven la refuse à travers les violons. La réponse restera un non, jusqu'au dernier moment, mais à la fin de ce mouvement, il rencontre cette mort inévitable. C'est ainsi que je vois les choses depuis des décennies. Pour moi, le final ne se déroule pas ici-bas. Dans les autres symphonies, Beethoven parle de rédemption, par la liberté, par la nature, par la conquête du destin, par la gaieté divine. Ici, le sujet est la délivrance de l'homme par la joie.
C'est évidemment pour cela que le dernier mouvement de la 9e symphonie est devenu l'hymne européen. Beethoven mourut 4 ans plus tard, le 26 mars 1827. Les obsèques de Beethoven furent grandioses. Vienne lui accorda les honneurs qu'elle ne lui avait pas donnés de son vivant. Thérèse Brunswick, son ancienne élève, raconte
« Jamais empereur n'eut des funérailles semblables. 30 000 personnes l'accompagnèrent au tombeau. »
Toutes les œuvres de la fin de sa vie, à commencer par la 9e symphonie, résument son éternel combat. L'homme est d'abord esclave, puis maître des éléments de la nature. C'est une profession de foi politique. Si cette plongée au cœur de l'histoire du romantisme allemand vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.